Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous pour cette nouvelle édition et nouvelle année. Donc j'ai le plaisir de vous souhaiter les meilleures lectures possibles au cours de cette nouvelle année 2018. Alors on va commencer par un livre d'images. Je trouve que c'est une bonne occasion en cette nouvelle année de s'ouvrir sur des impressions visuelles extrêmement riches et fortes de beaucoup d'émotions. Et j'aurai le plaisir donc dans un instant de recevoir Robert Faure, qui est l'un des auteurs d'un livre qui s'appelle « Le Grand Montpellier et ses peintres ». Bonjour Robert Faure.
Bonjour.
Alors, quelques mots pour vous présenter. Je ne saurais dire le plaisir que j'ai de vous recevoir, parce que nous nous connaissons depuis assez longtemps et je connais certains de vos premiers livres, notamment un qui était consacré à Jean Hugo, que vous avez fréquenté à travers le camarade qui était pour vous son fils Charles. Jean Hugo, immense peintre, décorateur de théâtre, que vous avez vraiment fréquenté, bien connu. Alors, Jean Hugo a habité le Mas de Fourques à Lunel. Et vous êtes vous-même natif de cette région, de cette petite région, qui est véritablement votre terroir d'origine dans lequel vous êtes parfaitement ancré et que vous, au fond, vous chantez comme tel le barde d'Astérix, avec beaucoup de... Alors, vous le chantez pas par la voix, mais vous le chantez à la fois par la photographie que vous pratiquez couramment, la peinture et l'écriture. Alors, on vous doit pas mal d'ouvrages sur certains noms, certains manadiers de la région, de cette région, de cette petite Camargue que l'on intitule comme ça, notamment sur Fonfon de Guilherme, qui est une femme assez exceptionnelle. On aura probablement l'occasion de vous recevoir pour reparler de ce personnage et de la saga de cette famille. Mais aujourd'hui, donc, vous nous rendez visite pour ce livre que vous avez écrit et réalisé avec Alain Laborieux, journaliste, lui-même écrivain de son côté. Et vous êtes donc réunis pour faire une sorte de photographie de ce que les peintres ont vu de Montpellier au cours du temps et des âges. Alors comment vous est venue cette idée de réunir ces tableaux ?
Alors l'idée est venue, c'est parti en 2015 d'une exposition qui s'était déroulée à Octon, au village des Arts.
Sur les bords du Salagou.
Sur les bords du Salagou, organisée par Jean-Pierre Courdier, qui est peintre, et qui nous avait demandé de pérenniser un petit peu cette exposition sur le Salagou. Du coup, nous avons travaillé avec Alain sur les peintres du Salagou. Le livre est sorti en 2016 aux éditions du Papillon Rouge. Et vu l'engouement et le succès du livre, en discutant avec l'éditeur, il nous a demandé « Mais pourquoi pas faire un livre sur les peintres de Montpellier ?» Le Grand Montpellier, c'est peintre, donc ben oui, pourquoi pas. Et nous sommes mis à l'ouvrage tout de suite. Et heureusement, nous avions au préalable réalisé un livre, édité un livre aux éditions Gossin, les revues par les peintres. Nous avions déjà eu l'opportunité d'avoir des photos de peinture de Basile, de Marsal et de beaucoup de peintres de Montpellier. D'ailleurs, je remercie là notre ami Sylvain Amic qui était conservateur au musée Fabre et qui nous avait ouvert les portes des réserves. Voilà. Voilà, c'est parti de là. Et du coup, nous sommes mis au travail pour les peintres Montpellier. Et avec Alain, bien sûr, nous avons cherché au travers des galeries. Et notre ami, d'ailleurs, mon ami qui est décédé maintenant, Jean-Claude Renaud, qui était galeriste à Montpellier, nous avait aiguillé sur certaines collections et tout. Et voilà, et le résultat a été d'éditer ce livre.
Alors, c'est D'abord, il faut dire que c'est une très très belle réalisation éditoriale. C'est un très beau livre, d'un format, on va dire, carré, alors qui correspond assez bien à l'idée de la peinture. Donc, ni vertical ni à l'italienne, mais intermédiaire entre les deux, qui comporte quasiment 200 pages.
Voilà.
Et dans lequel on compte un nombre très important de peintres, et non des moindres d'ailleurs,
hein,
puisqu'on y trouve Courbet, bien sûr.
Bien sûr, Courbet, Basile, Marsal, beaucoup de gens. Beaucoup de
qu'on connaît, et alors, le plus intéressant, j'allais dire...
Vincent Bioulez aussi, et puis,
voilà,
bien sûr, parmi les connus.
Mais on découvre beaucoup de gens.
De gens, oui. René Ferris, par exemple, qui a été un très très bon peintre de la région, des gens comme... vous savez...
Amelin,
oui.
Marie
Amelin,
ça a été... Je ne connaissais pas bien. Et
qui vivait au 19e, qui avait vraiment fait un travail extraordinaire sur Montpellier. Il était un grand dessinateur. Voilà.
Alors, l'intérêt, c'est que, au fond, on parcourt, c'est une sorte d'histoire de l'art...
Oui.
Vu à travers Montpellier.
C'est ça.
Et à travers, alors, des scènes de la vie quotidienne, des marchés, des bâtiments.
Et
des
Montpellier et les alentours.
Et alors, il y a
les environs, comme par exemple Max Lénard, qui est habité Clapiers, qui a travaillé sur Clapiers en particulier. Rudel, qui a travaillé à Palavas. Mm-hmm. Enfin, beaucoup de gens.
Il y a une vue de Pignan également.
Il y a eu des vues de Pignan.
Quel est le peintre qui a...
Pignan.
Qui a fait Pignan.
Je ne
m'en souviens plus. Enfin,
non,
on voit Pignan.
Il y a Pignan, oui.
Voilà, on voit Clapiers au loin.
Il y a Ribérol aussi. Voilà, Dezeuze. Georges Dezeuze, voilà.
Magnifique, des tableaux
Georges Dezeuze, c'est superbe. Oui, il y a beaucoup de peintres comme ça, régionaux, méconnus souvent, et qui ont fait de belles choses.
Et on découvre, donc vraiment comment le regard, peu à peu, au fil du temps, en fonction de références de l'époque, etc.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir combien Montpellier a été une pépinière d'artistes depuis plus de 200 ans, parce que la première école remonte à 1764, ça a été vraiment quelque chose de fabuleux au travers du temps, de voir combien les gens se sont penchés sur Montpellier.
Alors j'allais dire, vous avez un regard d'expert, puisque vous-même peignez.
Oui.
Vous-même avez fait les Beaux-Arts de Montpellier. Vous êtes parfaitement dans cette lignée, au fond.
Voilà, exactement. J'ai été passionné par, déjà, Montpellier. J'ai travaillé aussi pendant 30 ans à Montpellier. Donc, si vous voulez, j'ai été imprégné de cette ville depuis pas mal de temps. Depuis même mon enfance, puisqu'avec Jean-Hugo, je me souviens, dans l'enfance, nous venions à la librairie qu'il y avait dans la rue de l'université. Et avec Jean et Loretta Hugo, on venait, et Charles, bien sûr, rendre visite, et Jean s'intéressait aux vieux bouquins, tout ça. On venait passer des fois une partie de l'après-midi à discuter avec le libraire.
D'accord. Donc, et d'ailleurs, il y a trois de vos tableaux dans le livre. Où on découvre votre vision de peintre de cette... Alors, le livre est construit comme une sorte de promenade.
C'est ça, oui.
On va de... L'Écusson, puis après on visite certains
par
quartiers.
Secteur,
voilà,
par secteur du
grand
de la
quartier,
ville.
On va dire.
Grand
voilà.
quartier de la ville, oui.
Et on se promène au fond quelqu'un, alors pas comme un touriste,
mais quelqu'un qui
est dans cette
ville. Qui est passionné de lumière et de vision de cette ville, par les monuments, par la façon du comportement des gens. Il y a tout un phénomène interprété, bien sûr, parce que le peintre, la peinture, c'est l'interprétation de la réalité. Hein. Mm-hmm. C'est jamais la réalité même, d'ailleurs, sinon c'est la copie. Mais là, non, là, c'est vraiment...
Et ce qui est passionnant, d'ailleurs, c'est ça, c'est le fait qu'on voit à travers l'œil du peintre, et à travers l'époque aussi,
Et la sensibilité de chacun.
Exactement, c'est on redécouvre de ce fait... à travers notre propre regard, on redécouvre cette ville que l'on croit connaître et qu'au fond, on ne connaîtra jamais.
On ne connaîtra jamais, c'est vrai.
Réellement.
Oui. Et puis, il y a par exemple Thomas Verny qui a fait des choses magnifiques à la peinture moderne. C'est le fils de Philippe Pradaillet. Et Philippe Pradaillet aussi, qui est en couverture, qui a fait des choses merveilleuses sur Montpellier. C'est un peintre magnifique.
D'ailleurs, Philippe Verny, là, on voit, c'est tout à fait contemporain.
Thomas Verny,
la dernière dernière version de la mairie, c'est la mairie
exactement.
Actuelle, celle de Jean Nouvel qui l'a peint.
Qui l'a peint, ouais.
Alors qui donne presque quelque chose d'abstrait, quoi. Hein,
complètement.
Avec des lignes,
une
composition absolument rigoureuse.
Oui, oui. Ah oui, c'est sur la composition même qu'il joue. Et puis alors, bien sûr, Vincent Biolès, qui est magnifique aussi dans...
Alors, Vincent Biolès, qui a tourné autour de la cathédrale.
De la cathédrale, oui.
Dont on a des
une vision très particulière, dans son style, vraiment très, très fort de composition, quoi. C'est fabuleux. Ouais.
Comment les peintres vivants ont accueilli votre idée de...
Ah, ils ont été vraiment très intéressés par le sujet. Toutes les œuvres qui sont là, bien sûr, étaient déjà peintes. Donc, si vous voulez, ils ont même certains qui sont mis à travailler. Quand on leur a proposé le sujet, ont travaillé spécifiquement sur Montpellier, comme Canetta qui avait rien sur Montpellier. Il a travaillé dessus. Vous voyez, ça a été un engouement fabuleux, quoi. Et puis Montpellier, c'est quand même... C'est une ville très, très attrayante, hein,
oui. On peut pas dire. Alors, donc, voilà, il y a ce qu'on disait, le regard, cette espèce... Alors, l'évolution du regard aussi...
c'est ça.
À travers le temps. Et alors, mais ce que j'ai trouvé aussi absolument...
Quand on compare avec, par exemple, Hamelin...
Et
la peinture d'aujourd'hui, on voit l'évolution carrément d'une vision autre.
Oui, tout à fait.
Hein, c'est vrai.
Et puis, la qualité de dessinateur, de côté gravure...
Ah oui. Oui, c'est vrai.
Mais alors, ce qui est le plus, je trouve, aussi fait partie du côté très passionnant, c'est que... Au fond, c'est un document sur l'histoire de Montpellier, sur le mode de vie. Parce qu'il y a les marchés, il y a le paysage, mais pas que la façon dont les gens vivaient. Il y a les terrasses de café.
Les terrasses de café, exactement.
Donc on a aussi cette espèce de document presque historique.
Exactement. Et puis le côté humoristique de Montpellier. Ouais, il y a une part aussi où les quatre seigneurs, par exemple, qui a été... Vous voyez, il y a des choses vraiment surprenantes, où les carnavals, les choses qui se passaient avant, qui ne se passent qu'on a oublié maintenant, et qui ont vraiment marqué l'histoire de la ville.
Ouais. Alors, par exemple, il y a une scène de music hall qui a été peinte par Louis Charles Aymard, qui est extrêmement allusive. On sent très vivant, on est peut-être à l'opéra, on ne sait pas trop. mais voilà, on a un instantané de la vie, des Montpellierains.
Des Montpellierains, les quatre seigneurs, vous voyez.
Il y a Dubout également, bien sûr.
Il y a Dubout, bien sûr. Notre ami Dubout. D'ailleurs, je remercie notre ami Michel Desc aussi, qui nous a aidés aussi pas mal sur les peintures de son père. Camille Desc aussi, qui est bien représenté aussi dans le livre.
Absolument.
Qui a été un des grands peintres, un des grands professeurs de l'école des Beaux-Arts de Montpellier. Et qui nous, donc, Michel, qui est un ami, nous a vraiment...
Qui est photographe, lui aussi.
Et qui est photographe. Ah oui, c'est un artiste.
Partagé,
bien sûr.
Alors, Desc aussi, c'est un peu comme les deux œufs. C'est une lignée
d'artistes. C'est une lignée d'artistes, Et en plus, c'est un homme adorable.
C'est formidable.
Ah oui, voilà. Vous voyez, il y a un panel, si vous voulez, de cette évolution depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours.
Alors, par ailleurs, le livre s'ouvre avec une formidable introduction, magnifique, de Numa
Ambursin,
qu'on connaît, nous l'avons reçu, nous, ici, mais donc on sait que c'était le commissaire des expositions du Carré Sainte-Anne. Ce n'est plus le cas. Et de la salle
Bagouet
également.
Exact.
Salbago, où il avait lui-même réalisé une petite exposition sur ce qu'il avait appelé les petits maîtres
de Montpellier,
dont Max Lénard, évidemment, faisait partie, puisque,
bien sûr,
en même temps, sont l'un de ses ancêtres. Et donc, il vous fait là une très, très belle...
Il nous a fait
très belle introduction.
Une introduction magnifique. Hein. Une préface de vraiment d'un grand connaisseur de la peinture montpelliéraine. C'est un homme vraiment qui a une grande connaissance de la peinture à Montpellier. Oui.
En plus, il la fréquente, qui vit dedans.
Il vit complètement. Voilà. Complètement. On sent qu'il est imprégné de cet art, de cette peinture, des gens qui ont construit cet art quoi, à Montpellier. Il en est complètement imprégné. C'est un homme passionné par ça.
Alors, s'il y avait un peintre ou deux qui pour vous soit particulièrement significatif ou pour qui vous éprouviez un attrait particulier, quel serait-il ?
Bon, il y a, vous savez, ils sont tous tellement différents, c'est difficile. Bon, bien sûr, Basile avec son portrait de femme du village, vue de village,
avec Castelnau en fond, c'est sûr,
c'est tellement connu, puis c'est tellement beau.
C'est un chef-d'œuvre, franchement.
Bon, il y a ça, bien sûr. Il y a aussi Vincent Biolès, que j'aime beaucoup son style. Donc, c'est un homme qui a beaucoup de talent, qui est un grand peintre, qui fait partie des grands peintres de Montpellier.
Qui a marqué l'histoire de la peinture
du XXe siècle. Oui, c'est un homme extraordinaire.
Et alors, pourtant, c'est très différent de ce que vous faites, vous.
Oui, parce que je ressens les choses différemment, sûrement. Je construis différemment ma composition. Mais je travaille sur la couleur. Alors, je pense qu'il doit y avoir une certaine influence de Jean Hugo, quelque part, parce que Jean était un peintre de la couleur. C'était un coloriste hors pair. Et est-ce que c'est ça qui m'a influencé aussi ? Puis vous savez, on reçoit des influences au fur et à mesure de la vie.
Vous me parliez de Turner.
Je parlais de Turner. Quand j'ai été confronté à sa peinture, je l'avais vu dans les années 60, une fois à Londres. C'était à la National Gallery, mais j'avais vu qu'un tableau. Et puis, dans les années 90, je suis retourné alors spécifiquement voir sa peinture à la Clough Gallery, à côté de la Tate Gallery à Londres, qui est réservée à Turner. Ça a été une révélation. J'ai été subjugué par cet homme. Et l'année dernière, d'ailleurs, il y avait une grande exposition à Aix-en-Provence.
Absolument.
Que je n'ai pas manqué, bien sûr. Je suis allé voir mon maître. Et ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, la vision, la suggestion de sa peinture, ce qu'il a suggéré. D'ailleurs, il y a beaucoup d'impressionnistes qui ont été influencés.
On peut considérer que c'est un pré-impressionniste.
Un pré-impressionniste, oui. Monet, entre autres, Whistler, tout ça, ça ont été des peintres qui ont été inspirés par la peinture de Turner. Donc, modestement, moi, j'ai succombé au charme.
Au fond, donc, vos deux maîtres sont Hugo et Turner.
Voilà. Si on peut dire comme ça, oui. C'est déjà pas mal. Hein.
Oui, ce sont de bonnes références, quand même.
Oui.
Alors, je me suis posé la question, quel est le Robert Faure qui a travaillé sur ce livre ? Le peintre, le photographe, l'écrivain ?
Avec Alain, on a travaillé ensemble sur le texte. Donc, Alain écrivait le texte et puis je lisais avec lui. Soit on a fait des modifications ensemble, donc on a vu ensemble le texte. Mais bon, il n'y a pas tellement de texte non plus. Mais c'est surtout la peinture qui m'a... tout ce qui concerne les amitiés que j'ai eues avec Vincent Biolès, Michel Descossi, l'amitié avec Jean-Claude Reynaud, tous ces gens qui m'ont aidé, qui nous ont aidés à construire ce livre. Voilà.
Alors, on va dire que d'ici une vingtaine d'années, il faudra en faire un autre pour actualiser le... Souhaitons que vous soyez en état de le faire, d'ailleurs.
C'est gentil.
Parce que ce qui est frappant quand même, c'est que on reste dans la figure, dans le figuratif, parce qu'évidemment, montrer une ville à travers ses peintres, ça implique qu'on y voit quelque chose.
Exactement.
Je me disais, au fond, compte tenu de l'évolution de l'art, est-ce que dans 20 ans, on pourra actualiser un tel livre ?
Ça se pourrait, oui. Oui, parce que, vous savez, l'évolution de l'art est infinie. Donc, vu ce qui se passe actuellement avec l'art contemporain, on voit les choses, on dit ça veut, mais ça signifie, pour la personne qui le voit, ça peut signifier autre chose. Mmh. Donc on peut toujours dire que c'est Montpellier, alors que la personne qui va le voir pensera à autre chose. Mais bon, est-ce qu'on pourra actualiser ça? Je sais pas. Dans 20 ans, je sais pas si je serai encore là. Donc pour vous en parler.
Mais bon. Est-ce que vous avez, parce que quand on feuillette, on se dit quand même. L'art figuratif a produit des choses absolument superbes.
Moi, j'avoue que...
L'art contemporain, je ne sais pas, je ne veux pas me prononcer sur...
Il y a de belles choses en l'art contemporain, j'avoue qu'il y a des choses qui me touchent, mais moins que l'art figuratif. Quand on voit ce que... Bon, je suis, bien sûr, quand on voit des peintures de... Bon, on parlait de Turner, mais quand on voit les peintures de la Renaissance italienne, bon, on se dit, il y a quand même une maîtrise fabuleuse, quoi. C'est Léonard, que ce soit Léonard de Vinci, que ce soit Filippo Lippi ou d'autres, on sent qu'il y a une maîtrise. Botticelli, quand je, par exemple, à Florence, quand vous passez devant le printemps ou la Vénus.
Ou la Vénus, oui.
Je veux dire, vous tombez à la renverse, quoi. Donc, moi, ça, cette peinture me touche profondément. La peinture de Jean Hugo me touche profondément. Oui. Malgré qu'il y ait eu cette évolution, c'était plus la peinture de la Renaissance italienne.
Absolument, oui.
D'ailleurs, à Jean, je lui disais souvent, quand j'allais dans son atelier, je disais, Jean, votre peinture me fait rêver. Alors ça le faisait rire, effectivement, il était touché par ça. Mais c'est vrai, la peinture de Jean vous permet de vous évader. Alors que dans certains tableaux de la peinture contemporaine, bon, pour s'évader, c'est plus difficile, quoi, voilà.
Bon, mais c'est, et d'autre part, si on ne peut plus portraiturer les lieux où l'on vit, on se dit qu'on peut-être on y perdra quelque chose.
Exactement. Oui.
Alors, en tout cas, c'est un très beau livre. Je le répète parce que c'est la vérité. Oui. Alors, il faut signaler aussi le travail remarquable de l'éditeur, le papillon
rouge qui a
rouge,
été,
oui.
Il a fait un travail énorme.
Ah oui, avec un effort sur la reproduction. Vous me direz, c'est un livre de peinture, si on ne fait pas d'effort sur la reproduction.
Mais
c'est
vous
pas
savez, il y a des livres qui sont moins bien reproduits que d'autres.
Absolument, hein. Absolument. Ouais. C'est une très très belle mise en page,
oui.
Des voisinages.
Alors là, nous avons travaillé ensemble, là aussi, voilà, avec Alain Labrieux, sur la maquette, parce qu'il est maquettiste, Alain. Donc Alain, on a travaillé, c'est nous qui avons fait la maquette du livre. Et Alain est l'expert, il a l'œil à plus du maquettiste, donc voilà, on a fait...
Parce qu'évidemment, quelquefois, il y a des pages où il y a deux peintures...
Oui.
Présenté, il y a des vis-à-vis un
c'est
peu
ça,
d'une page
c'est
à l'autre.
Ça, c'est là, la difficulté.
Ah, oui, oui.
Il faut arriver à faire concorder des couleurs, des peintures, des compositions, des formats. Et donc, vous voyez, il y a tout un...
Il y a des voisinages très, très intéressants. Hein.
Voilà. Et oui.
Et puis, le format de la peinture aussi.
Bien sûr. C'est ça qui est...
Petit format, grand format.
Grand format, il faut associer tout ça. Et c'est un mélange assez complexe, des fois. Hein.
Pour ne pas trahir le message du peintre.
Du peintre, oui, oui. D'ailleurs, au sujet justement de la reproduction des peintures, quand Vincent Violès a eu le livre, il m'a téléphoné, il m'a dit « c'est superbe ». De la part de Vincent Violès, il fallait que ce soit super.
Parce que c'est
un homme très pointilleux.
Oui. Très exigeant.
Très exigeant
oui,
sur
oui.
la production de ses œuvres.
Oui.
Il m'a dit c'est superbe. Donc, il n'y avait plus rien à ajouter, donc c'était bien.
Parfait. Bah, écoutez, voilà. Donc le talent du journaliste et l'œil du peintre ont fait merveille et donc nous ont permis d'avoir ce très beau livre dont je rappelle le titre. Alors le titre, bon, ça fait un peu techno, mais Montpellier, les environs n'auraient pas été pareils. Donc le grand Montpellier et ses peintres, donc par Alain Labrieux et Robert Faure, que j'ai le plaisir donc de recevoir. Et tout ça est édité au Papillon Rouge éditeur. Voilà, il nous reste à remercier Robert Faure de nous avoir rendu visite et parlé de ce très bel ouvrage, donc du Grand Montpellier vu par ses peintres. Alors, une petite nouvelle du monde de l'édition, puisque je l'annonçais dans une émission précédente, mais le magazine littéraire fait peau neuve. Et donc, de manière assez banale d'ailleurs, il va s'appeler dorénavant le nouveau magazine littéraire. Vous avouerez que c'est un petit peu téléphoné. Alors le numéro 1 donc, de cette nouvelle mouture du magazine littéraire se caractérise par pas mal de changements. On n'est gardé que l'idée du dossier consacré à un écrivain. Donc dans le numéro dans ce nouveau numéro, nouvelle formule, c'est à La Boétie qui est consacré ce dossier d'écrivain. La Boétie, pour ceux qui l'auraient oublié, c'était le compagnon de Montaigne. Et le dossier de ce nouveau magazine littéraire donc s'appelle et sous-titré La Boétie, le véritable insoumis. Alors je résiste pas au plaisir de citer La Boétie parce que c'est assez par les temps qui courent, cette citation est assez intéressante. Elle ouvre le dossier. « Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà de ne servir plus, alors plus au sens négatif, hein, c'est pas plus en plus. Donc soyez résolus de ne servir, en français d'aujourd'hui on dirait de ne plus servir, et vous voilà libre. » Le jeune auteur du discours de la servitude volontaire, grand ami de Montaigne, a transmis ainsi un mode d'emploi. Pour ne plus subir le pouvoir du tyran, il suffit de ne plus le lui donner. Cette pensée radicale préfigure une gauche libertaire, exemplaire pour les mouvements anarchistes qui suivront. Elle veut croire que le citoyen, par la force de la volonté, pourra s'extraire de la soumission à laquelle il s'est lui-même contraint. Voilà, qu'on se le dise et qu'on s'en inspire, le cas échéant. Alors, le reste change pas mal, puisque, au fond, c'est une manière d'élargir le propos du magazine littéraire qui est titré en couverture « Les idées qui changent le monde ». Alors, il n'y a rien de très nouveau là-dedans, pas mal de gens, de noms que l'on connaît déjà. Le journal s'ouvre sur un poème de Patrick Chamoiseau, l'auteur créole haïtien que l'on connaît, ensuite avec un texte de Raphaël Glucksmann, le philosophe de service, qui met en exergue une phrase qui est la suivante: il est temps d'ouvrir les portes et les fenêtres, de fuir les esprits douaniers. Alors j'ai envie de dire, il ne suffit pas de le déclarer, encore faut-il être capable de le faire. Et c'est ainsi que le journal aborde ce qu'ils appellent les nouvelles utopies, alors avec des gens que l'on connaît déjà par cœur, Vincent Message, Michael Fossel, Slavoj Žižek, Dominique Méda, bon, des gens de qualité certes, mais qui ont déjà eu l'occasion de s'exprimer longuement sur la société et les éventuelles nouveautés que l'on peut y trouver. Voilà, donc après, il y a une recension des nouvelles parutions, avec un accent qui est mis plus sur les idées peut-être que sur la littérature, avec une répartition en fiction et non-fiction. Donc vous aurez compris, littérature et essai, c'est une manière de faire du neuf avec du vieux. Il y a une rubrique sur les arts et puis quelques dialogues, dont un particulièrement, le dénommé Raphaël Glucksmann que je citais à l'instant, dialogue avec Edgar Morin, ce qui n'est vraiment pas une nouveauté, puisque Edgar Morin, si je ne m'abuse, doit avoir autour de 90 ans et s'exprime très largement depuis très longtemps dans bon nombre de revues. Bref, une nouvelle maquette, mais pas grand-chose de nouveau sous le soleil de ce nouveau magazine littéraire dont paraît le numéro 1 avec un prix de lancement. Alors, j'ai pas très bien compris, donc 4,90 €. Est-ce que le numéro 2 va être à 6-7 €? C'est assez étonnant, comme habituellement quand on sort une revue, eh bien, elle a un prix et puis après on n'en change pas. Bien là, c'est pas le cas. Donc, alors, ce numéro est paru juste avant la fin de l'année. Et à ce jour, pas de nouvelles du numéro 2 de ce nouveau magazine littéraire. Alors, nous resterons attentifs et nous vous tiendrons au courant des nouvelles de ce magazine nouveau, mais pas si nouveau que ça. Voilà, ainsi s'achève ce numéro de Gulliver. Je vous renouvelle mes vœux, tous mes vœux de bonheur, de réussite et surtout de bonne lecture.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. à la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.